Très bien, bonsoir à tous, à toutes. Donc, comme cela vient d'être dit, il s'agit d'essayer d'introduire donc à cette exhortation apostolique du pape François, une exhortation apostolique post-synodale, donc qui est le fruit non pas d'un synode, mais de deux synodes dont vous avez entendu parler, hein, qui se sont déroulés en octobre 2014 et en octobre 2015, donc sur la famille. Et comme il est d'usage, donc le pape qui présidait, hein, ces synodes, qui les a convoqués, quand on a donné le thème, eh bien, il a ramassé tout ce que les différents pères synodaux ont pu dire sur la famille, dans un document, donc, et cette exhortation apostolique, où il essaye de donner une synthèse de ce qui a pu être dit par les pères synodaux. Alors, ceux qui l'ont lu, ou parcouru, ou qui ont simplement ouvert, ont pu tous remarquer que c'est un document qui est assez dense, qui est long et dense, hein, ce qui rend témoignage un petit peu du travail qui a été fourni durant le synode, hein. Un travail qui a certainement été assez dense, puis assez long, qui a abordé des multiples questions concernant la famille. Et donc, ce n'est pas forcément évident d'aborder un document aussi long, aussi dense, pour essayer d'en faire le tour et de le synthétiser. Donc, je vais essayer ce soir de donner un petit peu des clés de lecture de ce document, sans forcément être exhaustif. Je ne sais pas si c'est possible d'être exhaustif sur un document pareil. Surtout qu'on peut dire que c'est plus un guide pastoral qu'un enseignement du style d'une encyclique. D'ailleurs, c'est une exhortation apostolique, ce n'est pas une encyclique, hein. Et on voit bien que le pape François a voulu en faire en quelque sorte un guide qui peut aider à accompagner la pastorale de la famille dans tous ses aspects. Alors, pour essayer d'introduire un petit peu à ce document et à sa réception dans la vie de l'Église et dans la pastorale de la famille aujourd'hui, je vais surtout me référer en fait à une autre exhortation apostolique du pape François, la première, hein, qu'il a rédigée, qui s'appelle La joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, hein, parce que je pense qu'en fait les clés de lecture fondamentales de la joie de l'amour sont dans la joie de l'Évangile. Et c'est certainement pas anodin chez le pape François d'intituler ces deux documents de la même manière. À parler de la joie que donne l'Évangile, et dans ce document sur la famille, la joie que donne l'amour, l'amour dans la vie de famille, qui est source de joie pour l'Église, hein, et qui a certainement là une intention rédactionnelle, hein, de la part du pape. Vous savez que très souvent, les premiers mots latins du document, hein, Evangelii Gaudium, comme Amoris Laetitia, donnent le ton un petit peu, hein, d'un document. Et donc, si à chaque fois il parle de l'amour et de la joie, c'est certainement pas anodin, hein. Et donc, d'essayer un petit peu de voir quelles peuvent être les clés de lecture de Amoris Laetitia dans Evangelii Gaudium. Et en faisant une première remarque, c'est que tout en parlant de la joie dans les deux documents, le pape François, dans ses documents et dans le texte latin, donc, qui est le texte de base, si vous voulez, à partir duquel toutes les traductions ont été faites, en français, en italien, en allemand ou en serbo-croate, on a traduit les textes à partir du latin, c'est de voir que pour le mot joie, en latin, on n'utilise pas le même mot pour parler de la joie de l'Évangile et pour parler de la joie de l'amour. Vous avez entendu? Evangelii Gaudium, alors que dans le document qui nous intéresse aujourd'hui, on parle d'Amoris Laetitia. Gaudium d'un côté, Laetitia de l'autre. On aurait pu penser que le pape François utilise deux fois le mot Gaudium. Il n'en est rien. Il utilise le mot Laetitia pour l'exhortation apostolique sur la famille. Et je pense que cela a un sens particulier. Alors j'aimerais, dans un premier temps, essayer de voir quel est le sens et la nuance de sens entre Gaudium et Laetitia. Et puis, dans un deuxième temps, nous référer à une autre clé de lecture que donne le pape François de la joie de l'amour, qui se trouve également dans le document Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, et qui touche ce qu'il appelle le temps qui est supérieur à l'espace. Donc, première partie, si vous voulez, les nuances entre Gaudium et Laetitia, et puis deuxième partie, la clé d'interprétation hein, en fonction du principe selon lequel le temps est supérieur à l'espace. C'est un principe auquel le pape François tient beaucoup, dont il parle dans la joie de l'évangile et dont il reparle là, au tout début, hein, de la joie de l'amour. Ça va? Je vais essayer de tenir ça en 40 minutes. Hein, puis ensuite, on échangera. Alors, les nuances entre Gaudium et Laetitia. Alors, Gaudium, en latin, désigne une réjouissance qui est d'abord plus intérieure qu'extérieure. Gaudium, gaudere, gaudeo, hein, le verbe se réjouir, désigne une réjouissance qui a une connotation d'abord intérieure. Hein. Donc une joie intime qui résulte d'une satisfaction. Il y avait un besoin qui a été satisfait intérieurement. On peut parler de la faim, par exemple. J'ai faim. Une fois que j'ai mangé, je suis satisfait intérieurement et c'est un contentement qui est personnel. Quelque chose de personnel et qui peut avoir quelque chose d'intime lorsque le contentement n'est pas nutritionnel, mais spirituel, par exemple. Et donc, c'est une joie, hein, la joie gaudium, qui est intérieure et qui se spécifie par quelque chose de durable. Un apaisement qui dure et qui est de l'ordre d'un contentement, donc. Un contentement. Et donc cette joie, on pourrait continuer à essayer de la spécifier en disant qu'elle est plus de l'ordre d'une bonté qui nous rassasie. Une bonté qu'on éprouve et qui nous rassasie. Elle est l'ordre d'une possession, et quelque chose qui est rempli en nous, de l'ordre d'une plénitude. J'ai faim. Je me mets à manger, je suis rassasié, je suis rempli, si vous voulez. Hein. Quelque chose qui me remplit, qui est de l'ordre d'une plénitude et d'une possession. Une plénitude qui est donc éprouvée intérieurement. Alors, quand on parle de la joie de l'Évangile, le fait que j'accueille dans la foi Jésus mort et ressuscité par amour pour moi, eh bien, c'est de l'ordre d'un rassasiement de l'âme, hein, qui est intérieur, et ça donne une joie qui est liée au fait que j'éprouve une communion avec Dieu, une communion intérieure avec Dieu en Jésus-Christ. Donc ça signifie quelque chose, si vous voulez, de vertical, hein, dans la relation avec Dieu. Mon âme est contentée dans un gaudium, dans la mesure où j'accueille Jésus-Christ mort et ressuscité dans la foi, et c'est ce que suscite la joie de l'Évangile. L'Évangile suscite cette joie-là, cette joie intérieure, ce rassasiement intérieur dans l'accueil de Jésus mort et ressuscité par amour pour nous. Alors on peut continuer à essayer de spécifier la nuance en voyant que dans le substantif gaudium, il y a la même racine de mot hein, que le verbe audire, entendre. Donc la joie de l'Évangile, elle est issue du fait que j'accueille une prédication. Audio, entendre, que je fais mienne, qui descend à l'intérieur de moi. Pour dire, c'est une joie qui passe par les oreilles. Une joie qui passe par les oreilles pour entrer à l'intérieur de nous. Et pour nous rassasier à l'intérieur de nous-mêmes, au plus intime de nous-mêmes. Vous savez, cet autre adage qui vient de saint Paul, mais qu'on a traduit en latin de manière très très synthétique. Fides ex auditu. La foi vient de ce que l'on entend. Et donc, l'Évangile, la bonne nouvelle, hein, je l'accueille par les oreilles et elle donne ce gaudium, cette joie intérieure, eh bien, qui est le fruit d'une prédication. Donc, la joie de l'Évangile, elle passe par les oreilles pour descendre à l'intérieur de nous-mêmes, pour être éprouvée au plus profond de nous-mêmes. Ça correspond à une forme d'anthropologie, si vous voulez, de la Bible, ça. Alors, le cœur du cœur, si on avait essayé de dire ben, quelle est la nouvelle que nous annonce Jésus-Christ mort et ressuscité, et qui vient rassasier le fond de mon cœur, le fond de mon âme, lorsque Jésus meurt et ressuscite pour nous, il dit à chacun, chacune d'entre nous, Dieu dit à chacun, chacune d'entre nous en Jésus ressuscité, dans l'évangile accueilli, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi, à tel point que j'ai racheté ta vie en mourant sur une croix pour toi. Et ça, ça produit une joie intérieure qui est l'ordre du Gaudium. Je compte aux yeux de Dieu. Et c'est Jésus, le Fils bien-aimé du Père, qui me le dit en payant ma vie de sa propre vie. En payant ma vie de sa propre vie. Ça, c'est la joie qu'occasionne l'Évangile. L'accueil de cette bonne nouvelle, elle suscite cette joie intérieure, ce Gaudium, parce que notre cœur attend de savoir qu'on compte aux yeux de Dieu. Donc, notre vie vaut la vie du Fils de Dieu pour nous. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup et je t'aime. Le prix du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi, pour m'introduire dans sa gloire. Alors voilà un tout petit peu, en quelques mots, des nuances de sens sur le terme Gaudium tel qu'il peut être appliqué à l'Évangile et dans un latin qui est récupéré dans la foi chrétienne catholique, si vous voulez. Alors le mot Laetitia ensuite, que le pape François choisit pour notre exhortation de ce soir sur l'amour. Amoris Laetitia et non pas Gaudium. Pourquoi? Parce qu'il y a une nuance de sens. Il y a une nuance de sens. Alors ça demandait d'être approfondi, tout ça, je ne suis pas un spécialiste du latin, mais en même temps, le fait de prendre un autre mot amène à approfondir la raison, et donc de voir que ce mot Laetitia, qui est un nom féminin, alors que Gaudium c'est un nom neutre en latin, est une sémantique à l'origine dans le langage latin qui est issue du monde agricole. C'est issu du monde agricole et il y a derrière l'idée d'épanouissement, de floraison, de fécondité. Donc, c'est une joie qui est issue du fait qu'il y a quelque chose qui a porté du fruit, qui a une fécondité, une fructuosité, une fertilité. Gaudium est quelque chose de caché, intérieur. Laetitia est quelque chose qui apparaît, qui s'extériorise, qui se manifeste dans une floraison. Donc il y a une extériorisation qui se dit dans une manifestation de joie. Dans une Laetitia, c'est une joie qui se manifeste, qui se voit. Gaudium, c'est très intérieur, c'est un contentement, une satisfaction intérieure. Laetitia, ça apparaît à l'extérieur. Donc il y a vraiment ce passage de l'intérieur à l'extérieur. Une visibilisation, une explosion de joie même. Le terme jubilatio est une espèce, si vous voulez, de déploiement de la Laetitia. Et autant, dans le Gaudium, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la bonté, que j'éprouve intérieurement, qui me comble, qui me rassasie, qui est une plénitude, la Laetitia est plutôt de l'ordre de la beauté. Quelque chose d'une grâce, d'une beauté qu'on voit, qu'on contemple. C'est plus les oreilles, cette fois-ci, ce sont les yeux qui sont sollicités. Davantage les yeux que les oreilles. L'ensemble des sens, d'une certaine manière, mais surtout les yeux. Donc la Laetitia, c'est une joie qui se manifeste dans une beauté qui se voit et qui se contemple. On passe des oreilles aux yeux. Les oreilles, c'est l'organe qui me permet d'accueillir quelque chose qui descend à l'intérieur. Les yeux sont les sens qui me permettent de voir quelque chose qui est à l'extérieur. Qui est à l'extérieur. Alors, dans le Gaudium de l'Évangile, dans le Gaudium, on est dans une plénitude qui est éprouvée. Dans la Laetitia, on pourrait dire qu'on est dans une plénitude qui est participée. J'éprouve une plénitude intérieure, mais qui est partagée dans la Laetitia. Donc c'est une communion qui est partagée à l'extérieur avec les autres. Le Gaudium, c'est une communion qui est éprouvée à l'intérieur. Laetitia, c'est une communion qui est partagée avec les autres, qui permet d'exulter avec les autres, qui engendre une liesse au niveau d'un peuple, donc d'une communion qui devient plus horizontale. Dans le Gaudium, c'est une communion qui est verticale, communion entre Dieu et moi, et j'éprouve la présence de Dieu en moi qui me comble. dans la Laetitia, c'est une communion qui s'horizontalise, si vous voulez, qui se participe socialement, puisqu'elle se voit. Alors, dans Gaudium, on a dit que le verbe, c'était plutôt le verbe audire, entendre, hein, on passe par les oreilles, mais là, c'est plus le verbe qui est le verbe élevo, hein, qui veut dire élever, hein, qui est de la même racine, la même famille de mots que Laetitia, lever, élever, exaucer aussi. Hein. C'est une promesse qui est exaucée, qui se voit, qui porte ses fruits en quelque sorte. Et en latin, ce verbe élevo, hein, est utilisé aussi dans le monde agricole, hein, puisque la racine du mot est liée à la sémantique du monde agricole. Ça veut dire enlever, rentrer la récolte, récolter le fruit de quelque chose qui a été semé avant. Donc ce qui a été semé, enfoui dans la terre, pour dire le gaudium de l'évangile, porte du fruit dans l'amour, dans la manière de vivre l'amour. Et un fruit que je récolte. Donc porte sa promesse, si vous voulez. Donne ce qui était promis dans ce qui a été semé. Quoi. Donc cette joie de l'amour, elle se constate par les yeux. La joie de l'évangile, Evangelium Gaudium, s'accueille par les oreilles, pour le faire nôtre. La joie de l'amour, elle se constate par les yeux, elle est de l'ordre d'une félicité partagée. Elle sort à l'extérieur, elle se partage, elle réjouit les autres. Et la joie de l'amour vécue dans la famille réjouit la famille, la cellule famille, et réjouit aussi l'Église. Hein, c'est la première phrase, la toute première phrase du document, hein, donc, qui ouvre le document. Avec le pape François, donc le numéro 1, vous savez qu'il y a ces documents sont organisés par paragraphes qui sont numérotés, plus de 300 paragraphes dans ce document, ce qui est quand même assez long, c'est assez rare. Jean-Paul II et Benoît XVI n'écrivaient pas autant, hein, c'est jamais été aussi long. Quand ça arrivait à 200 numéros, c'était déjà beaucoup. Bon, ben là on a plus de 300, hein, et donc alors c'était plus compliqué à lire, ça c'est vrai, hein. Surtout Jean-Paul II, parfois, il fallait suivre un. Hein, mais alors là, ça se lit beaucoup plus facilement. Mais c'est très dense. Et donc la première phrase, la joie de l'amour, à Maurice Laetitia, qui est vécue dans les familles, donc qui est partagée dans les familles, hein, est aussi la joie de l'Église. Donc, l'Église n'est jamais aussi joyeuse que quand la joie de l'amour est partagée dans la famille. Donc ce que veut l'Église, qui rend heureux l'Église, ce pourquoi l'Église est faite, c'est de voir cette joie de l'amour s'épanouir dans la famille. Et donc se partager. Autrement dit, il s'agit que la joie de l'évangile, le gaudium de l'évangile intérieur qui est lors de la rencontre avec Jésus, puisse à terme porter tous ses fruits dans la joie de l'amour vécu dans la famille. On pourrait dire que la Laetitia de l'amour est comme la floraison du gaudium de l'Évangile. Plus l'Évangile est annoncé, il est transmis dans la réalité familiale, plus il devient Laetitia, joie partagée, qui porte son fruit, son meilleur fruit, dans l'amour vécu dans la famille. Donc on pourrait parler de la Laetitia comme un épanouissement extérieur d'un gaudium intérieur, d'une joie éprouvée à une joie participée. Alors, à partir de là, hein, on peut considérer ce document sur la famille, la joie de l'amour, comme étant un guide pastoral pour que le gaudium de l'Évangile produise tous ses effets dans la Laetitia de l'amour. Il s'agit de vivre ce passage-là, de la joie de l'Évangile accueillie dans la prédication de Jésus qui est mort par amour pour nous, pour que ça produise tous ses effets dans la joie de l'amour partagée en famille. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut un guide pastoral. Et bien, ce document est un guide pastoral pour que l'Évangile porte tous ses fruits au cœur de la cellule de base de la vie de l'Église, qu'est la famille. Vous savez qu'on parle parfois de la famille comme étant une église domestique, une petite cellule d'église, où se vit l'évangile, et lorsque la joie de l'évangile est accueillie par chacun, elle est appelée à être participée par tous dans la joie de l'amour. Donc c'est un guide pastoral pour que le Gaudium de l'Évangile produise tous ses effets de laetitia, de joie qui explose, si vous voulez, qui se voit, qui se manifeste, et que cette laetitia, elle se dit dans la réalité humaine de l'amour, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu amour. L'amour humain a pour vocation de manifester la joie de l'Évangile, d'être le véhicule, en quelque sorte, de la joie de l'Évangile vécue. Alors, au début du document, le pape François commence par redire ça, en disant que le couple est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la vocation du couple, en s'aimant, c'est d'être reflet et image du mystère de Dieu, qui est le mystère de l'amour fondamental. Donc il s'agit que les dons de Dieu dans le mariage, les dons de Dieu manifestés par l'Évangile, portent tous leurs effets dans la vie de couple et la vie de famille. Mais il s'agit aussi que ce soit aussi un guide pastoral pour ceux qui ont perdu la laetitia de l'amour. Il s'agit que le Gaudium de l'Évangile produise ses effets dans la joie partagée de l'amour, mais il y a des situations de vie, et on en connaît tous, où l'amour dans la famille a cessé d'être manifestation de la joie, de la laetitia. À cause de la séparation des parents, par exemple. Ou parce que dans la vie de famille et la vie de couple, il y a des périodes difficiles, de crise, où l'amour dans le couple, ou l'amour dans la famille, dans la relation des parents avec les enfants, ou avec les grands-parents ou autres, il y a des situations de crise où l'amour de la famille n'est plus manifestation de la joie de l'Évangile, n'est plus laetitia. Eh bien, ce document est aussi un guide pastoral pour nous aider à retrouver la laetitia de l'amour perdu. Pour ceux qui ont perdu la laetitia de l'amour à cause de décès, de divorces, de crises diverses, dans un contexte que le pape François énumère, qui prend le temps de situer un contexte consumériste, individualiste, avec la culture du provisoire, de l'immédiat, bon. Eh bien, il faut aider les gens à retrouver la joie perdue, la laetitia perdue dans l'amour, mais en refaisant à nouveau l'expérience du Gaudium de l'Évangile, c'est-à-dire de la rencontre du Christ mort et ressuscité. Précisément, si je perds une certaine joie de vivre, une certaine joie d'aimer dans la famille, il faut encore plus que j'aille retrouver, que j'aille rencontrer le Gaudium de l'Évangile, la joie intérieure de l'Évangile qui est fruit de la rencontre avec le Christ. Et donc le pape François, il nous invite à prendre soin de ces différentes situations où l'amour n'est plus source de joie, mais de difficultés, d'incompréhension, de tristesse, parce qu'on est déçu. On a eu tellement d'espérance dans cette relation de famille, dans cette relation conjugale, qu'on est déçu. Eh bien, le pape François dit qu'il faut prendre soin de ces situations qui apparaissent comme un échec. Il faut faire miséricorde, en prendre soin, pour aider à retrouver cette laetitia de l'amour et de l'amour humain, en initiant des parcours, des chemins, des itinéraires qui vont permettre de goûter à nouveau la joie de l'Évangile, au cœur même de situations d'échec. Au moment où j'ai l'impression que mon conjoint ne m'aime plus, que mes parents en crise d'adolescence, que mes enfants en crise d'adolescence ne m'aiment plus, et Dieu sait si un enfant, dans la crise d'adolescence, il peut être dur et difficile vis-à-vis de ses parents. Donc, dans ces moments-là où l'amour humain est mis en échec ou est mis à l'épreuve, il faut que je retrouve la joie de l'Évangile où j'entends Jésus qui me redit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime et j'ai donné ma vie pour toi. » C'est en repartant de cette expérience-là, fondamentale de la joie de l'Évangile, où Dieu me dit que j'ai du prix à ses yeux, que je vais pouvoir relever les défis de la perte de la joie de l'amour, de la laetitia, de l'amour perdu. Et donc, le pape François nous dit qu'il faut initier des chemins, des itinéraires nouveaux, pour regoûter la joie de l'évangile, le gaudium de l'évangile, avec toute sa profondeur, et retrouver ce qu'il appelle la dynamique de la grâce. La dynamique de la grâce, ça correspond précisément à ça. Dieu me fait grâce en me redisant que j'ai du prix à ses yeux et que je l'aime. L'expérience de la grâce, fondamentalement, c'est ça. Dieu m'a fait grâce. Il n'était pas obligé de s'intéresser à moi. Dieu, il était bien tranquille dans son ciel et il était heureux dans sa propre béatitude. Mais il a voulu partager son ministère d'amour en me manifestant par Jésus qui meurt, par amour pour moi et qui ressuscite, que j'ai du prix à ses yeux. Et donc dans ces situations où l'amour n'est plus source de joie de Laetitia, il faut, plus que dans toutes les autres situations à ce moment-là, permettre de faire goûter à nouveau la joie de l'Évangile. Tout se casse la figure dans ta vie, familiale, professionnelle, parce que parfois ça va en cascade, n'est-ce pas ? Sache que pour moi, tu as toujours du prix à mes yeux, et je t'aime. Que cet amour-là reste un amour fondamental, fondateur, même au cœur de l'expérience de l'échec. Et donc, dans ces moments-là où on perd la Laetitia de l'amour, il faut faire encore plus entendre le gaudium de l'Évangile. Dans des situations concrètes de l'existence où la Laetitia a été perdue. Donc pour retrouver la Laetitia, il faut passer par le gaudium, le redécouvrir, l'approfondir. Alors, à partir de là, le document parle d'une pastorale du lien. Le lien dans la vie de couple, dans la vie de famille, c'est ce qu'il y a à cultiver, à affermir, à entretenir, à développer dans ses commencements, dans son affermissement, mais aussi lorsque le lien est altéré. Mais là aussi, il y a une pastorale de la famille qui continue à être une pastorale du lien, un lien qui s'est abîmé dans la séparation des parents. Mais il faut continuer à en prendre soin, même quand il a été brisé. Même quand on est séparé et qu'on ne voit plus à vue humaine comment on peut retrouver le lien. C'est un lien qui s'espère à ce moment-là. Et donc la pastorale du lien, qui est la pastorale de la famille, la pastorale du mariage, est appelée à être une pastorale de l'espérance, une pastorale de la réconciliation, de la guérison, de la rédemption du lien. Et à partir de là, le point d'insistance majeur du document, et qui va être premier chez le pape François, c'est que c'est une pastorale qui demande du temps, pour laquelle on ne peut pas faire l'économie du temps. Et donc il dit, le plus important dans cette pastorale, c'est d'initier des processus, des chemins, des parcours, des dynamiques de croissance de l'amour, sans chercher à avoir tout de suite du résultat. Et c'est là le plus difficile. Et c'est là le plus difficile. Précisément, c'est la logique du gaudium de l'Évangile, ça. Quand Jésus parle de l'Évangile, il dit toujours, c'est lors d'une semence. Les paraboles du royaume dans l'Évangile sont toujours des paraboles très liées au monde agricole, précisément. Il faut jeter en terre la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu as du prix à mes yeux. Mais le temps que ça porte du fruit, on ne fait pas pousser des carottes en tirant dessus, quoi. Ça ne pousse pas plus vite. Et c'est exactement pareil pour ce qui concerne la terre qu'est le cœur humain, qui a besoin d'être régénéré, surtout quand le lien a été abîmé. Il faut retrouver, il faut ressemer de l'Évangile et de la joie de l'Évangile. Il faut attendre, il faut accompagner la semence, il faut arroser peu à peu pour que ça pousse et que ça porte du fruit en son temps et en son heure. Et donc le point d'assistance majeur, et à mon avis, qui est vraiment la clé de lecture et le fil conducteur de toute la joie de l'amour, à Maurice Laetitia, et sur lequel le pape François insiste dès le début, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie du temps. Et donc, dès le numéro 3, il dit il faut réapprendre à initier des processus. Ne pas être d'abord dans une obligation de résultat, mais savoir accompagner des processus qu'on initie. Alors, c'est dès le numéro 3 qu'il dit cela. Et il rappelle au numéro 3, en rappelant que le temps est supérieur à l'espace, je vais revenir à cette formulation, je voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles, mais qu'il s'agit d'initier des processus. Et c'est exactement ce qu'il disait déjà dans son exhortation sur la joie de l'Évangile. Et cette formulation « le temps est supérieur à l'espace », c'est une formulation qu'il y a entre guillemets au numéro 3 d'Amoris Laetitia, parce qu'il la cite de son exhortation sur la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium. Et il la cite dans les numéros 223 et suivants. Donc je vais vous faire une citation de ce qu'il entend par cette formulation qui lui est propre, « le temps est supérieur à l'espace ». Ce numéro 223 d'Evangelii Gaudium. Donc je le cite. « Ce principe, le temps est supérieur à l'espace, permet de travailler à long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses, ou les changements de plan qu'impose le dynamisme de la réalité, le dynamisme de la réalité de l'amour humain, par exemple. Ça se fait progressivement, apprendre à s'aimer. Il est une invitation à assumer les tensions entre plénitude et limite, en accordant la priorité au temps. Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus, des parcours, plutôt que de posséder des espaces. Alors, des espaces au sens large, pas simplement un espace géographique, par exemple des espaces de pouvoir, si vous voulez. On veut acquérir du pouvoir, pouvoir posséder les choses. Non, il faut initier des processus plutôt que d'acquérir des espaces de pouvoir, de compétences ou autres. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons d'une chaîne en constante croissance. Il s'agit de privilégier des actions qui génèrent des dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront jusqu'à ce qu'ils fructifient en événements historiques importants. Oui, jusqu'à ce qu'ils fructifient. Initier des processus avec une dynamique interne, le processus de la joie de l'Évangile, qui un jour va porter des fruits, mais en son temps, en son heure. Et pour ça, il faut arroser, il faut s'occuper de la plante qui a été semée. Voilà, puis il continue, le numéro 225, il dit la même chose, toujours dans la joie de l'Évangile. Alors, c'est une expression qui ensuite va revenir sans cesse tout au long du document. Tout au long du document, il n'arrête pas de dire qu'il faut initier des processus en utilisant les termes parcours, chemin, dynamique, croissance, étape, et de revenir toujours à cette réalité-là. La vie de couple, la vie de famille ne pourra se développer que si on initie des processus que l'on accompagne. Et vous allez retrouver trois mots importants tout au long de l'encyclique, trois attitudes pastorales: accompagner, discerner, intégrer. Accompagner des processus au cœur desquels se vivent des discernements. On arrive sur un chemin, il y a des fois des carrefours à prendre. Et donc, quand il y a des carrefours, il y a des décisions à prendre. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Et donc, faire en sorte aussi que dans ces parcours, on intègre le maximum de personnes. Personne ne soit laissé sur le bord du chemin, si vous voulez. Et donc, tout au long de son exhortation, le pape n'arrête pas de dire, de donner des éléments pour accompagner, de donner des éléments pour discerner, faire des choix, et de donner des éléments pour intégrer, qu'il n'y ait pas d'exclusion, si vous voulez, qu'il n'y ait pas d'exclusion. Alors par exemple, il dit au numéro 37, qu'il s'agit dans cette perspective-là, donc le temps est supérieur à l'espace, initier des processus, il s'agit de présenter le mariage, je le cite, numéro 37, présenter le mariage davantage comme un processus dynamique de développement et d'épanouissement que comme un poids à porter. Même s'il y a un poids à porter, c'est dans une dynamique. Et la dynamique, je pourrais toujours plus la restimuler quand j'articule toujours Laetitia, la joie que procure l'amour, au Gaudium, qui est la rencontre du Christ, qui est la relation au Christ. Donc, présenter le mariage davantage comme un parcours dynamique de développement et d'épanouissement, donc des personnes au contact de l'Évangile. en revenant au dynamisme de la grâce, sans cesse, tu as du prix à mes yeux, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Alors, on peut aller voir différents numéros qui témoignent que c'est cela qu'il s'agit toujours d'initier, de reprendre et d'activer, selon l'intention du pape François, en donnant des outils pastoraux pour ça, des conseils, en fonction des différentes situations. Vous avez par exemple le numéro 134. Où il redit, tout ceci, donc ce développement de l'amour humain, se réalise dans un parcours de croissance permanente. Cette forme si particulière de l'amour qu'est le mariage est appelée à une constante maturation. Encore les symboliques de la fécondité, de la fructuosité, si vous voulez. Parce qu'il faut toujours lui appliquer ce que saint Thomas d'Aquin disait de la charité. En effet, la charité, considérée dans sa nature spécifique propre, n'a rien qui limite son accroissement. Il faut la faire grandir, toujours. Car elle est une participation de la charité infinie qui est l'Esprit Saint. Du côté du sujet, de celui qui reçoit cela, on ne saurait non plus fixer de terme à l'accroissement de la charité. Car toujours la charité augmentant l'aptitude à augmenter encore, ça croît d'autant plus. Saint Paul exhortait avec force que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres. L'amour matrimonial ne se préserve pas avant tout en parlant de l'indissolubilité. Il ne s'agit pas de garder quelque chose, de le préserver, il faut le déployer. Il s'agit en fait de consolider ce qu'est l'amour matrimonial grâce à un accroissement constant sous l'impulsion de la grâce. Puis termine ce numéro. Le don de l'amour divin qui se répand sur les époux est en même temps un appel à un développement constant de ce bienfait et de la grâce. Le nombre de fois où le pape utilise les mots croissance, développement, étape, chemin, c'est assez hallucinant en fait. Et c'est ça qu'il veut absolument initier. Il remploie par exemple aussi différentes images, on prend une simplement, numéro 219, il dit « Je me rappelle un proverbe qui disait que l'eau stagnante se corrompt et se détériore. Il faut qu'elle soit en mouvement. Jésus nous promet l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau qui coule, pas de l'eau qui stagne. » Alors il dit « C'est ce qui se passe lorsque cette vie d'amour au cours des premières années du mariage stagne, cesse d'être en mouvement, cesse d'avoir cette mobilité qui la fait avancer. » Il prend l'exemple de la danse qui fait avancer, grâce à cet amour jeune, la danse avec ses yeux émerveillés vers l'espérance ne doit pas s'arrêter. Donc, quand l'amour cesse de vivre, de s'entretenir, il se fige et donc il meurt. Alors, à partir de là, il dit, c'est la même logique qu'il faut appliquer dans des situations de vie de famille dites, c'est comme ça qu'il le qualifie dans l'exhortation, irrégulière. En fait, même dans ce moment-là, lorsqu'il y a des liens qui s'abîment dans le couple et dans la famille, il faut essayer de retrouver des éléments dynamiques qui permettent de faire vivre même un lien abîmé, même un lien qui a été altéré. Alors, pareil, il y a différents numéros où il rappelle cela, par exemple au numéro 297. Où il dit, en ce qui concerne la façon de traiter les diverses situations dites irrégulières, entre guillemets, les pères synodaux ont atteint un consensus général que je soutiens. Donc il reprend la synthèse des différents pères en disant, voilà, je valide ce qui a été dit, et donc il cite les pères synodaux. Dans l'optique d'une approche pastorale envers des personnes qui ont contracté un mariage civil, qui sont divorcées et remariées, ou qui vivent simplement en concubinage, il revient à l'Église de leur révéler la divine pédagogie de la grâce. Dieu veut continuer à les conduire par sa pédagogie dans cette grâce propre en leur disant « Tu continues d'avoir du prix à mes yeux, tu continues d'avoir du prix à mes yeux, mais il va falloir que je te le montre autrement, maintenant que tu n'es plus avec ton conjoint, et tu es peut-être avec une autre personne. » Il revient à l'Église donc de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leur vie et de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux. Dieu veut continuer de les conduire, mais par un chemin qu'on ne connaît pas encore et qu'il va falloir parcourir dans la foi un pas après l'autre. Et donc il termine, il dit, il s'agit de parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux, toujours possible avec la force de l'Esprit Saint, même si je ne vois plus comment. Si je vais prendre une image, si vous voulez, il nous invite à croire à ce moment-là, le pape François, que Dieu a le meilleur GPS du monde. God Position Salvation, on pourrait dire. Voyez, c'est, il a le meilleur GPS du monde. J'ai pas de GPS. Hein. Je suis arrivé ici sans GPS. Mais bon, c'est pas une ville de 500 000 habitants, donc on s'y retrouve, n'est-ce pas, hein. Mais c'est génial le GPS. Parce que quand on se plante, le GPS il nous dit, vous auriez dû, et on se plante souvent, vous auriez dû tourner à droite. Faites demi-tour et tournez à droite. Il vous dit ça une fois, il vous dit ça deux fois, il vous dit ça trois fois. Et au bout d'un moment donné, quand il voit qu'on ne tourne pas à droite, qu'on ne fait pas marche arrière, qu'est-ce qu'il fait? Il recalcule un nouvel itinéraire. Mais c'est exactement à ça que nous invite le pape François, dans les situations dites irrégulières. Allez chercher ces personnes-là. Écoutez d'abord leurs souffrances, leurs difficultés, leur histoire, pour les aider à se remettre dans un itinéraire où ils vont découvrir quel est le plan de Dieu sur eux. Parce que Dieu, il veut toujours pouvoir continuer à leur dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Et donc, le GPS, au lieu de nous remettre sur le chemin en faisant marche arrière, il va recalculer un itinéraire à partir de l'endroit où on s'est planté. Mais il va falloir accepter de parcourir ce chemin dans une logique de croissance qu'on ne connaît pas encore, un pas après l'autre. Il a une très belle image, à nouveau le pape François, pour dire ça ensuite. C'est le numéro 303, si je ne me trompe pas. Non, c'est le numéro 305, où il dit « Rappelons-nous ». Alors, c'est toujours dans les situations irrégulières. Hein. Il dit « Rappelons-nous ». Et il cite à nouveau son exhortation « Evangelii Gaudium ». Rappelons-nous qu'un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. Ce qu'il regarde, c'est le petit pas. Et quand je fais un petit pas, ça va m'éclairer pour faire le petit pas suivant. Et je vais voir que de petit pas en petit pas, Dieu va me remettre sur un chemin de vie, de sainteté et d'amour où je vais retrouver la joie perdue. Voyez, hein. Retenez cette image. Moi, s'il y avait une image à vous dire, c'est l'image du GPS, quoi. Et le pape François nous dit, apprenez à être mon GPS, en quelque sorte, quoi. Hein. Vous qui êtes acteurs pastoraux, aussi bien comme prêtres que comme membres de la famille, hein, il dit beaucoup, les acteurs de la pastorale de la famille, c'est d'abord les familles elles-mêmes. Donc, voilà en quel sens, et je termine par là, il dit qu'il s'agit d'initier des processus qui laissent du temps au temps et qui amènent de développer trois attitudes qui sont celles de l'accompagnement, du discernement. Dans l'itinéraire, il y a différents carrefours et à un moment donné, il faut choisir dans quelle direction on veut continuer d'aller. Hein. Et puis, la dernière attitude, c'est d'intégrer, de faire en sorte que personne ne soit laissé sur le chemin tout seul, en étant exclu. Et donc, à partir de là, il nous donne les éléments pour accompagner, discerner et intégrer l'ensemble des membres de la famille dans une manière de continuer à se mettre à la suite du Christ, même avec les blessures, même avec les difficultés, même quand le lien a été abîmé et rompu dans la famille. D'une certaine manière, je terminerai par là, il nous invite à développer les attitudes de Jésus telles qu'on peut voir les attitudes de Jésus avec la Samaritaine. En Jean 4, cette rencontre entre Jésus et une femme qui va au puits de Jacob au beau milieu de la journée. On dit qu'il vient au puits de Jacob à midi, c'est-à-dire au moment où il fait le plus chaud, et au moment où en fait personne vient chercher de l'eau à cette heure-ci. Si elle vient à midi, la femme de Samarie, c'est à cause de la réputation de mauvaise vie qu'elle a dans son village de Sychar. Elle y vient à ce moment-là pour ne rencontrer personne. Manque de peau, il y a Jésus. Il y a Jésus qui est adossé sur le puits, qui est fatigué. Les autres ont été chercher à manger à Sychar. Et je pense que quand elle voit Jésus adossé sur le puits, plus d'une fois, la Samaritaine, avant d'arriver au puits, a dit « Je vais faire demi-tour. » Et de voir comment Jésus va la prendre de manière indirecte, il est très sioux, hein, « Jésus, donne-moi à boire, j'ai d'abord besoin de toi. » Pour ensuite, au fur et à mesure du chemin pastoral, il lui fait faire un chemin pastoral, l'amener à être en face de sa vie, de son histoire, du fait qu'elle a cinq maris, que le sixième, c'est pas le bon. Elle cherche la Laetitia de l'amour, mais elle va trouver la Laetitia de l'amour qu'en rencontrant le Gaudium, qu'est Jésus. Et son vrai mari, son véritable époux, celui qui a épousé son âme, c'est Jésus. Et de voir dans ce chemin comment Jésus s'y prend. Comment Jésus s'y prend. Comment il initie un processus pour conduire la Samaritaine de sa situation de vie de départ à devenir celle qui retrouve la joie, la Laetitia. Elle va partager la joie de la rencontre avec Jésus aux gens du village qu'elle fuyait. C'est assez extraordinaire si on regarde l'ensemble du récit. Au départ, elle va toute seule au puits parce qu'elle veut rencontrer personne. Et à la fin, parce qu'elle rencontre Jésus, elle va rencontrer ceux-là qu'elle fuit pour leur apporter la joie. Tout est renversé, tout est renversé. Mais quand on contemple cette page du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean, on a Jésus qui nous enseigne comment faire, si vous voulez. Il s'agit de méditer, reméditer l'Évangile, le Gaudium de l'Évangile, pour pouvoir porter la Laetitia de l'amour au monde, quoi. Et moi, si j'avais une chose à vous dire, c'est qu'à partir de là, méditez vraiment dans Jean 4, eh bien, la manière dont Jésus se fait le guide pastoral de la Samaritaine, en quelque sorte. Parce que là, il y a quelque chose qui est au cœur de ce que le pape François veut initier pour nous, une église qui soit une église de... qui est une manière samaritaine, si vous voulez, de prendre soin de toutes les situations de vie que l'église accompagne, quoi, aujourd'hui.